Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jocelyne Moussa Opondé.
L'armée maintient la pression sur le M23 dans le groupement de Djomba où elle a lancé une offensive contre ces rebelles depuis mercredi. Le porte-parole des opérations Sokola 2 dresse tout de même un bilan de quelques blessés dans les rangs des FRDC ainsi que des capturés du côté des rebelles. Activisme des ADF dans le territoire de Mambasa en Ituri. Au moins 15 000 élèves de 60 écoles ne vont plus en classe depuis 3 mois. Les autorités scolaires redoutent une année blanche. Marie-Ange Sarakaï, notre invitée, elle est directrice générale en charge de la mobilisation des ressources, partenariat et financement au sein de l'Alliance du vaccin Gavi, et cette organisation internationale qui s'occupe des questions d'immunisation. Bonjour à tous. Cette édition part du Nord Kivu. Les FRDC maintiennent toujours la pression sur le M23 dans la région de Tchanzu et Runyoni, en groupement de Djomba, où l'armée a lancé une offensive depuis mercredi matin contre ces rebelles. Le porte-parole des opérations Sokola 2 parle des avancées significatives sur la ligne de front et appelle la population de Djomba à soutenir l'armée. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko fait état de quelques blessés de rang dans les rangs des FRDC ainsi que des capturés du côté des rebelles sans plus des détails. Sifa Maguru nous fait le point.
D'après les porte-parole des opérations Sokola 2 qui se trouvent dans la région, les affrontements se poursuivent autour des collines stratégiques de Runyoni et Tchanzu. Il appelle la population de Djomba à faire confiance et à soutenir l'armée qui continue à gagner du terrain. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume.
Nous sommes au-delà de Djomba, sur la colline de Ishangi, c'est au moins à 6 km vol d'oiseau de Runyoni. Les forces armées de la République démocratique du Congo, à chaque bataille, elles gagnent le terrain et l'ennemi est tenté de reculer. Là, c'est que toutes les crêtes autour de Runyoni et Tchanzu, où l'ennemi a mis son commandement, ont récupéré presque toutes ses crêtes, et notamment à Bougoussa. Donc, lentement, mais sûrement, nous sommes vers les objectifs. Je pense que nous allons finir par mettre hors d'état de nuire cet ennemi qui est venu troubler la quiétude de la population de Rutshuru.
Par ailleurs, la société civile de Rutshuru indique que la population de Mihika, localité située entre les groupements de Djomba et Bouiza, s'est déplacée à cause des bombardements pour se réfugier vers Ntamugenga et Rutiro dans la même région. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Pendant ce temps, une délégation de la MONUSCO Beni s'est rendue à Massambo, une localité du secteur Rwenzori, dans le territoire de Beni, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Beni. La localité avait fait l'objet d'une attaque des ADF la nuit de dimanche à lundi dernier, faisant plusieurs morts. Le but de la mission mercredi était d'échanger avec les acteurs concernés sur la situation sécuritaire et les mécanismes à mettre en place pour mieux protéger les civils. André Kitenge, reportage.
À Massambo, on peut s'apercevoir encore des stigmates de cette attaque, des maisons, boutiques et pharmacies calcinées. Plus de la moitié des habitants ont quitté la localité pour d'autres endroits jugés plus sécurs. Sur place, la délégation a rencontré le commandant des FRDC, les autorités civiles, notamment le chef de la localité et les représentants de la société civile. Ensemble, ils ont échangé sur la situation qui prévaut ainsi que les dispositions à prendre pour que pareille attaque ne se reproduise plus. Toutefois, la situation reste préoccupante. C'est pourquoi le chef de la localité appelle le gouvernement à renforcer les effectifs militaires autour de Massambo, Falcon Benga.
Plusieurs personnes, jusqu'à plus de 60% de la population, sont déjà partis vers Kassindi, Lume, Mutwanga, même jusqu'à Beni. Si le gouvernement continue à compter sur nous, je prierai toujours à ce gouvernement de déployer plusieurs militaires aux alentours de notre fief Massambo.
Les quelques habitants restés encore sur place n'ont qu'un seul vœu, le retour de la paix.
La situation est volatile, les habitants sont partis chacun pour soi. Ils ont trouvé refuge en brousse et jusqu'à présent, ils ne sont pas revenus. Nous sommes tous en brousse, il n'y a plus déjà au village, la plupart sont morts, les enfants sont partis en otage. Nous n'avons rien à dire, aidez-nous avec la paix, nous vivons par la grâce de Dieu.
Après l'attaque, l'effectif militaire a été renforcé avec la venue des soldats de l'UPDF.
En Ituri, au moins 15 000 élèves de 60 écoles de la chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mambasa n'étudient pas depuis environ 3 mois. C'est à cause de l'activisme des rebelles des ADF qui fuient des opérations militaires dans les régions de Beni au Nord Kivu pour s'installer dans la forêt de Mambasa. Les autorités scolaires redoutent une année blanche pour les élèves dans plusieurs villages qui sont vidés de leurs habitants. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis plus d'une année que plusieurs agglomérations de la chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mambasa sont la cible d'attaques des rebelles des ADF. Pillages, meurtres et incendies des maisons des civils ainsi que des installations sanitaires ont été enregistrés dans cette entité, indiquent des sources locales. Selon le président du Parlement territorial des jeunes, au moins 60 écoles dans les entités de Lukaya, Makumo, Njiapanda et Makiki ne fonctionnent pas à cause de cette insécurité. Suleiman Onokoko.
Les écoles aussi sont des victimes. Les 60 l'équivalent presque de 15 000 enfants sont abandonnés à leur triste sort. Et surtout, les finalistes qui préparent les épreuves ici sont à fuite.
De leur côté, les autorités scolaires redoutent une année blanche pour les élèves de ces entités. Selon le président du syndicat des enseignants des écoles conventionnées protestantes, certains parents ont inscrit leurs enfants à Biakato à 12 km pour poursuivre les études. Olivier Marassi.
Sans intervention du gouvernement, je ne sais pas si vraiment il y aura les activités scolaires dans ces entités. Nous sommes en train d'appeler le gouvernement de venir en aide. Je pense qu'il y aura une blanche dans ces entités-là.
Tous nos efforts pour entrer en contact avec les autorités locales à ces sujets n'ont pas abouti. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Dans la même province, le gouverneur militaire, le général Johnny Kachama, vient d'effectuer pour la première fois une mission d'itinérance dans les localités lacustres de Chomia et Kasseni, à 60 km au sud de Bounia. Dans son adresse aux populations, il a déclaré qu'il est temps de passer à la phase de développement de l'Ituri tout en consolidant la paix dans ces entités. À cette occasion, les habitants ont également relevé certains défis pour booster l'économie dans la région et instaurer une paix durable. Isaac Raymond.
Avant l'instauration de l'état de siège en Ituri, certains groupes armés dont la CODECO et le FPIC étaient actifs dans plusieurs localités sur l'axe Bounia-Kasseni. Il s'agit notamment des Ekere, des Kotoni et des Nyakeru, mais aussi des localités situées à la périphérie de Bogoro et proches de Kasseni et Chomia. Selon de nombreux habitants, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée depuis bientôt 4 mois dans la région. Dans un meeting populaire sur place, le gouverneur des provinces a déclaré que depuis l'instauration de l'état de siège, plusieurs efforts ont été déployés par le gouvernement pour la restauration de l'autorité de l'État dans ce coin. Les militaires ont été renforcés à Bogoro, où se trouve un état-major des FARDC pour traquer ces groupes armés, et à Kasseni, où il y a une base de la force navale. Le général Johnny Kachama a indiqué que désormais, le développement du milieu constitue sa priorité. Parmi les projets déjà réalisés, il y a la réhabilitation du tronçon Bounia-Kasseni, ce qui facilite les transactions commerciales entre la RDC et l'Ouganda, mais aussi les interventions militaires pour consolider la paix. D'autres projets du gouvernement sont en cours dans les cas du programme de développement des 145 territoires de la RDC, a-t-il ajouté. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Un retard dans le paiement de la prime des policiers est souvent constaté sur toute l'étendue du territoire national. Des policiers doivent s'armer de patience avant que leur prime ne soit disponible dans les banques locales. Le commissaire général adjoint de la police en charge des ressources humaines rassure que tout est mis en œuvre pour décanter la situation au plus vite. Le général Célestin Bengama, en mission de travail à Bukavu, s'exprime au micro de Cynthia Bachizi.
Il y a des policiers qui n'ont pas perçu leur prime. Mais le problème, ce n'est pas la police qui en est responsable. Il y a un montant qu'on défalque sur la prime des policiers pour donner aux banques commerciales. Nous avons appris que ce montant n'avait pas été décaissé. Raison pour laquelle certaines banques ont refusé carrément de payer les policiers. D'autres, par contre, se sont butés à des problèmes d'insécurité. Vous savez, il y a certains coins de la République où des problèmes d'insécurité se posent, ou d'accessibilité, ce qui font que les banques refusent. Alors ça pose un problème que nous devons revenir à l'ancien système qui est l'appel manuel. Alors mettre tous ces systèmes-là en place, c'est ce qui nous pose le problème. Donc je pense que dans les jours à venir, ce problème sera résolu.
Au Audition hier jeudi à l'Assemblée nationale du ministre des Transports Chérubin Okende qui a éclairé la lanterne des élus sur le transport aérien en RDC. Répondant à la question d'actualité lui adressée par le député Célestin Engelemba, Chérubin Okende a souligné l'importance de la décision de la baisse du prix du billet d'avion, mais a aussi annoncé la création d'une nouvelle compagnie d'aviation de l'État. Ces mesures n'ont pas convaincu l'auteur de la question d'actualité par manque de débat et promet d'envisager d'autres moyens de contrôle pour approfondir la question. Le point avec Michel Kifindangoy.
Dressant un état des lieux de son secteur, le ministre a relevé que depuis un temps, il observe une grande perturbation dans la desserte des vols domestiques dans le pays, particulièrement la suspension des lignes, bousculade et débarquement des passagers. Mais une solution est en cours, souligne Chérubin Okende.
Il y a également un partenariat stratégique avec Ethiopian. Il y a 7 avions de nouvelle génération qui peuvent nous permettre même de commencer des vols internationaux et soutenir le trafic domestique dans notre pays qui sont aujourd'hui en voie d'être opérationnels dans notre pays sous le drapeau Air Congo, donc une nouvelle compagnie aérienne nationale.
En réaction, l'auteur de la question d'actualité souligne la nécessité d'un débat sur la problématique des transports aériens. Célestin Engelemba.
C'est un peu difficile de voir qu'un grand pays comme ça n'a pas d'avion. Mais comme il n'y avait pas de questions à poser, il y a quand même des zones d'ombre que nous devrions voir dans les jours qui viennent comment nous prendre. Et même si le ministre a dit que nous devons avoir 3 ou 7 avions par le partenariat avec l'Éthiopie, mais il ne nous dit pas là où la RDC doit avoir ses propres avions.
Le député Célestin Engelemba classe l'achat des avions propres à la RDC parmi les priorités du gouvernement.
Remise officielle hier mercredi à Lubumbashi du bâtiment du laboratoire vétérinaire de Lubumbashi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO à l'autorité provinciale. Il s'agit d'un ouvrage rénové dont les travaux ont duré 6 mois avec l'appui financier de l'ONG internationale USAID pour un coût total de 170 000 $ américains. D'après son administrateur, ces services vétérinaires profiteront à toutes les provinces des espaces Grand Kassai et Grand Katanga. Jean Gandou.
Les travaux de rénovation et d'équipement ont porté sur l'aile appelée diagnostic. C'est là que seront détectées toutes les maladies animales et zoonotiques, c'est-à-dire les maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme et qui peuvent être d'origine bactérienne ou virale. Ce laboratoire vétérinaire a été aussi doté du matériel, des réactifs et autres consommables. Il est aussi pourvu d'un incinérateur moderne pour la gestion sécurisée des déchets. Son personnel technique a aussi bénéficié du renforcement de capacité. Pour le représentant de la FAO en RDC, Aristide Ongome Obam, dont le mot a été lu par le chef de projet, l'acte posé par son institution vise à préserver la santé des animaux et des populations, à améliorer la résilience des moyens d'existence face aux menaces et aux situations de crise, mais aussi à renforcer les capacités de la RDC pour la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Son administrateur a indiqué qu'il est nécessaire de promouvoir aussi la production du vaccin pour un meilleur contrôle de certaines maladies d'origine animale. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans la province du Maniema, l'OMS a remis hier à la division provinciale de la santé des matériels médicaux, des luttes contre le coronavirus. Selon le ministre provincial de la santé, ces matériels arrivent à point nommé étant donné que la DPS était déjà en rupture de quelques intrants de laboratoire. Cette dotation va permettre à l'équipe de bien faire son travail, nous rapporte Florence Kizalunga.
Ces matériels, dont de l'OMS, étaient constitués des kits de prélèvement, d'un congélateur, un réfrigérateur, un ordinateur de bureau et onduleur, sans oublier les cartouches pour jeans experts ainsi que les consommables médicaux, pour ne citer que ceux-là. Pour l'assistant administratif de l'OMS, Dieudonné Ntambala, cette dotation s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des activités de lutte contre le coronavirus dans la province du Maniema. Le ministre provincial de la Santé qui a réceptionné ces matériels affirme que ceux-ci permettront à la DPS de bien continuer à diagnostiquer les cas de COVID-19 dans la province. Docteur Kibungi Mutanga Junior.
L'OMS vient de remettre les matériels des laboratoires dans le cadre de la lutte contre COVID-19 dans la province du Maniema. Et dans ce sens-là, le gouvernement provincial du Maniema remercie l'OMS pour ces gestes-là, combien louables. Justement, c'est tombé au moment opportun du fait qu'il y avait rupture de quelques intrants déjà au laboratoire, mais avec ces dons dons ici, ça va encore permettre à la DPS de bien faire son travail.
Signalons que la province d'Imanema compte à ce jour 1404 cas de coronavirus avec 9 décès. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le tribunal militaire de Ouagadougou a rendu son jugement hier mercredi dans l'affaire des assassins présumés de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. 14 accusés comparaissaient dans ce procès, notamment l'ancien chef d'État Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando, son chef de la sécurité. Blaise Compaoré a été condamné à perpétuité. Au Soudan, un jeune homme a été tué par balle lors des manifestations anti-putsch. Les Soudanais sont descendus dans les rues par milliers hier mercredi afin de dégager les putschistes et ne plus jamais vivre des coups d'État. Selon une source médicale, un jeune manifestant a été tué à Khartoum.
L'invité.
La RDC a été de tout temps un champion dans l'immunisation et compte parmi les pays qui ont un taux de couverture vaccinale des bases de près de 90%. Déclaration de Madame Marie-Ange Saraka Yao, directrice générale en charge de la mobilisation des ressources, partenariats et financement au sein de l'Alliance du vaccin Gavi. Gavi est une organisation internationale dont la mission principale, en partenariat avec l'UNICEF, l'OMS et la Banque mondiale, entre autres, et de s'occuper des questions d'immunisation et d'aider à promouvoir l'accès des enfants des pays pauvres à la vaccination. À partir de Genève, Marie-Ange Saraka a accordé une interview exclusive à Radio Okapi et évoqué notamment le rôle de cette organisation dans la réponse au Covid-19. Suivez l'entretien de la directrice générale de Gavi avec Honoré Missenga-Kalala.
Marie-Ange Saraka Yao, bonjour.
Bonjour.
D'abord, Gavi, c'est quoi et quels sont ses objectifs?
Alors, Gavi, c'est une alliance qui regroupe tous les partenaires, en fait, clés de la santé, y compris les agences mondiales telles que l'OMS, l'UNICEF, mais aussi la Banque mondiale. Évidemment, les pays que nous soutenons, les pays donateurs, les groupes pharmaceutiques, les agences de recherche. Donc, c'est vraiment une alliance qui a été formée au début des années 2000 pour soutenir les efforts d'immunisation des pays. L'idée, c'est vraiment de regrouper l'ensemble des pays à faible revenu pour créer une force de frappe, si je puis dire, pour réussir donc à créer un marché et donc à avoir accès à des vaccins à des prix abordables et surtout donc justement en se basant sur les économies d'échelle.
Puisqu'on est dans la vaccination et l'immunisation, quel rôle joue Gavi dans la riposte contre le Covid-19 dans le monde en général et en Afrique en particulier, notamment dans le cadre du programme COVAX?
Alors, fort de son expérience de 20 ans, lorsque la crise du Covid a éclaté, naturellement, les partenaires se sont tournés vers Gavi et les autres membres de l'Alliance pour aider à monter une réponse rapidement. C'est ainsi que, en fait, la plateforme qu'on appelle communément ACT-A a été lancée, et plus particulièrement la plateforme COVAX qui se focalise justement sur la réponse vaccinale. Donc Gavi est vraiment le chef de file avec les autres partenaires de l'Alliance pour cette réponse. Et de cette expérience, donc Gavi s'est attelé donc pour vraiment pouvoir développer un portefeuille de vaccins large et étendu, en tout cas qu'on peut offrir au pays pour la réponse vaccinale. Donc à ce jour, COVAX, sous donc l'impulsion de Gavi et des autres partenaires, a aujourd'hui livré plus de 1,4 milliard de doses de vaccins à 145 pays et 90% donc vont aux pays à revenus faibles et intermédiaires. Et dans ce cadre-là, donc environ 1,2 milliard a été donc livré aux pays AMC et l'Afrique a reçu près de la moitié de ces vaccins.
Oui, près de la moitié pour le continent africain. Quelle est la part de la RDC?
Alors, la RDC a reçu plus de 5 millions de doses de vaccins, principalement donc les vaccins ARN messagers, mais aussi de certains des autres vaccins.
Le taux de vaccination contre le Covid-19 est encore en dessous de 15%, du moins jusqu'au mois dernier, et de moins de 1% en RDC. Comment Gavi explique-t-elle ce déficit de couverture vaccinale contre le coronavirus sur le continent en général et en RDC en particulier?
Au début, la préoccupation principale quand la crise du Covid a éclaté, c'était vraiment de pouvoir avoir accès aux vaccins. Maintenant, ce qui est positif, c'est qu'on a les vaccins dans des volumes importants et on peut donner aussi la prévisibilité au pays. Donc, je pense qu'un des premiers freins au départ, c'était déjà pouvoir avoir accès aux vaccins. Et maintenant que ces vaccins arrivent, la priorité, c'est vraiment soutenir les pays pour augmenter la capacité, pour faire le renforcement du système de santé, de façon à ce qu'au fur et à mesure que de grandes quantités de vaccins arrivent, ils puissent être administrés et que les services de santé donc, puissent être soutenus de façon importante. Au niveau de la RDC, je dois dire que la RDC a été de tout temps un champion de l'immunisation. C'est un des pays qui a eu le plus de soutien dans les 20 dernières années et qui, en fait, en termes de taux d'immunisation de routine, a parmi les taux les plus importants pour la couverture de base, près de 90%, ce qui est vraiment exceptionnel. Il est très clair que la crise de la pandémie a affecté donc les services de santé. Donc maintenant, nos efforts conjoints, c'est de restaurer ces services pour que justement, on puisse accélérer la vaccination aussi COVID, en même temps que les autres vaccinations qui sont très importantes, comme on sait, la rougeole, toutes les autres vaccinations qu'il faut restaurer au système de base. Donc nos équipes travaillent d'arrache-pied. Il y avait une mission il y a 15 jours. Je sais qu'il y a une autre mission qui arrive encore dans quelques jours. Donc on est optimiste parce qu'on sait que la RDC est un champion de l'immunisation à tous les niveaux, que ce soit dans le cadre, comme on l'a vu avec Ebola ou beaucoup d'autres maladies. Mais la pandémie a joué un rôle important. Il faut pouvoir renforcer les systèmes, rassurer aussi la population parce qu'il y a eu une hésitation vaccinale. Dans certains pays, c'est important de pouvoir donner toutes les informations, mais surtout soutenir les systèmes de santé pour les restaurer.
Merci beaucoup, Madame Marie-Ange Saraka Yao.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis.